Alors, comme annoncé la dernière fois, nous allons nous consacrer dans les deux dernières séances à dire quelques mots sur ce thème très difficile de l'éternel retour et de parler du divin à propos de l'avant-dernier texte du Par de la Bien et le Mal concernant Dionysos. La prochaine fois, j'espère que nous aurons un temps assez long, peut-être la moitié de la séance, pour répondre à des questions. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, si vous pouvez préparer ces questions, peut-être par écrit, ça vous oblige à être plus précis. Et si vous pouvez me les donner avant, ça me permet moi aussi de préparer, éventuellement d'aller trouver des textes pour répondre à ces questions. Bon, s'il n'y a pas de questions écrites, on fera oralement. En fait, c'est plus facile d'organiser un débat s'il y a des questions écrites. Voilà, donc pensez de toute façon à des questions que vous avez sur l'ensemble de ce parcours, sur la philosophie nietzschéenne, des questions donc concernant ce que nous avons vu aussi. Alors, avant d'en venir et pour en venir à cette affirmation de l'éternel retour, je crois qu'il est bon de dire quelques mots en guise de conclusion sur ce que nous avons vu concernant la morale, puisque nous avons essayé de regarder de près ces grands textes concernant la morale aristocratique, noble, distinguée, et la morale d'esclaves, servile, basse, etc. Autant d'expressions équivalentes ou à peu près. Alors, je crois qu'on peut, et en même temps dire quelques mots du titre lui-même, revenir sur le titre lui-même, par de la bien et de mal. Alors, comme vous le voyez, me semble-t-il, il est assez clair dans les textes que nous avons vus que Nietzsche ne propose pas une morale nouvelle. Contrairement à ce qu'on dit, il arriverait en proposant une morale nouvelle à l'humanité. Il examine, nous dit-il clairement, ce que les hommes en société ont vécu et ce qu'ils vivent, c'est-à-dire les morales effectivement existantes, les morales telles que les sociétés les ont pratiquées, les ont critiquées, les ont renversées. Et il cherche à faire une typologie, c'est-à-dire à classer ses attitudes morales et ses théories morales. Alors, qu'est-ce qu'il constate ou qu'est-ce qu'il croit constater? Ben, il croit constater qu'en gros, on peut répartir ces diverses morales vécues, donc pas du tout inventées, en deux grands types. Ce sont des types, et par conséquent, qui répondent plus ou moins, qui sont des clés d'interprétation et d'analyse, de réalité évidemment toujours plus complexe. Alors, ce qu'il montre, c'est qu'au fond, il y a deux pôles opposés, en sorte que les morales concrètes oscillent entre deux manières d'être opposées, et de telle sorte que les traits qu'il a donnés, que nous avons vus rapidement la dernière fois, constituent une sorte d'ensemble dont aucun trait n'est isolable en lui-même. Mais deux pôles qui s'inscrivent autour du pôle de la noblesse, du sens de la distance, de la distinction, ou du côté de l'esclavage et de la servilité. Donc, ou du côté de l'acte créateur, qui est capable de se dépasser lui-même en créant, ou dans l'attitude du refus avaricieux, donc ou de la prodigalité, ou de la recherche de soi qui peut se cacher sous les traits du désintéressement. Alors, je crois que ce qui est important de constater, c'est que ces morales et cette typologie impliquent d'un côté une métaphysique, c'est-à-dire en rapport au tout des choses, et une psychologie. Une métaphysique, puisque ces typologies nous renvoient à une façon de se rapporter au monde. Il ne s'agit pas simplement de préceptes moraux, d'interdits, de choses de ce genre. Il s'agit, à travers ces deux attitudes de noblesse ou de servilité, d'un certain rapport au tout des choses, une façon de vivre le tout des choses. Et c'est ce que, dans la généalogie de la morale, il va appeler une métaphysique. Ce n'est pas une métaphysique au sens d'une métaphysique construite, élaborée, développée, mais au sens d'une façon de se rapporter au monde et au tout des choses. Parce que l'une et l'autre de ces attitudes jugent le monde, soit en l'acceptant, en acceptant de dire oui au monde tel qu'il est, dans son exubérance, dans son chaos, dans son surcroît, y compris d'ailleurs le mal et la souffrance, les textes que nous avons vus sur l'exploitation. Donc, celui qui a la force de dire oui à ce qui est tel que c'est dans la totalité de ce que c'est, donc y compris ce que Hegel appellerait le négatif, soit, à l'inverse, dans l'attitude de servilité, en condamnant ce monde comme un fardeau insupportable, comme quelque chose qui ne devrait pas être et qui conduit à l'attitude, à la recherche des arrière-mondes, un type de métaphysique qui est la métaphysique dualiste de l'arrière-monde. Ce monde tel qu'il est étant insupportable, on se donne, par l'imaginaire et évidemment par l'illusion, un autre monde qui, lui, alors, est le monde vrai, le monde juste et seul juste, etc., et qui, évidemment, vient critiquer et, d'une certaine façon, dénier le monde tel qu'il est, qui est un monde d'injustice, d'exploitation, mais aussi de beauté. On pourrait retrouver là les deux attitudes qu'on a dans les trois métamorphoses du Zarathoustra, que nous n'avons pas, évidemment, analysées dans ce parcours, mais que vous pouvez revoir. Et j'y ai fait allusion la dernière fois, l'attitude servile, c'est celle du chameau, qui a besoin de porter le poids du monde, qui a besoin de porter le péché du monde, ou de considérer le monde comme un poids dont on peut se délivrer. Et on peut se délivrer donc par les métaphysiques dualistes, mais on peut se délivrer, et là on peut prolonger Nietzsche, par les idéologies qui vont rêver d'une société de liberté, d'une société émancipée, sortie de l'exploitation, et nous avons vu dans les textes, Nietzsche n'y croit pas. Alors, l'attitude du chameau n'est pas l'attitude définitive, elle peut déboucher sur une troisième métamorphose de l'esprit, qui est l'enfant. Je vais y revenir tout à l'heure. L'enfant qui est celui qui est capable de dire oui au monde tel qu'il est, de jouer sur le monde. Et comme toujours chez Nietzsche, évidemment, on voit très bien les références bibliques, pas l'enfant. Mais c'est l'enfant d'Isaïe qui est capable de jouer sur le nœud, sur le trou de la vipère. L'enfant qui joue sur le mal du monde, mais qui, ce mal ne l'empêche pas pour autant de danser. Donc on pourrait dire les deux attitudes, c'est ou celle du chameau de la servilité, ou celle de l'enfant, qui est l'attitude de la bénédiction du monde telle qu'il est. Alors, il faut ajouter, et c'est là que nous débouchons, pourrait-on dire, sur la psychologie, que ces deux attitudes fondamentales, donc que l'on peut appeler métaphysique, elle varie selon les individus. Concrètement, les individus, donc psychologiquement, oscillent entre ces deux attitudes. Alors, il me semble tout à fait important de bien voir que les typologies ne s'identifient pas à des individus particuliers. Il n'y a pas pour Nietzsche des gens qui ne seraient que nobles, qu'aristocrates, ayant le sens de la distance, et de l'autre côté, des malheureux qui seraient de purs et simples esclaves. Comme nous l'avons vu au début du texte, il prend bien soin de dire qu'au fond, en toute âme, et il utilise ce mot, nous connaissons plus ou moins de servilité, plus ou moins de noblesse. Voilà, donc si l'on va dans le sens de la psychologie, Nietzsche voulait faire une psychologie, qu'il n'a évidemment jamais faite, mais il en a ouvert les voies, eh bien, on découvrirait que chaque individu particulier, il est plus ou moins marqué par la servitude ou par la noblesse. Et donc, il n'y a pas deux classes d'hommes sans communication, mais il y a la présence de la faiblesse, même chez les nobles. Je crois l'avoir dit la dernière fois, et nous avons lu des textes là-dessus, le grand créateur, celui qui est capable, en effet, d'être positif devant le monde, il est aussi souvent un être psychologiquement fragile. Ben, il a l'allure du créateur, mais en réalité, il connaît des faiblesses. Et le soulèvement des esclaves en morale vient de ce que précisément les esclaves parviennent à suggérer aux nobles qu'il n'est pas si noble qu'ils pensent. C'est-à-dire à jouer, pourrait-on dire, de faille à l'intérieur du noble qui va s'effondrer du dedans. Bon, la ruse de l'esclave, c'est précisément de pressentir la faiblesse du noble. Donc, il n'y a pas d'un côté le noble qui serait que noble et sans aucune trace de servilité, mais de l'autre côté non plus, il n'y a pas de servilité qui ne connaisse une certaine intelligence. Alors, on trouverait ça surtout dans la généalogie de la morale, ce qu'il appelle les prêtres ascétiques, qui représentent, c'est pas seulement des prêtres au sens sacerdotal du terme, c'est ceux qui donnent sens à la souffrance des hommes, qui vous disent, ben oui, il est bon de souffrir, vous gagnerez votre paradis ainsi, mais qui dit aussi bien aux militants communistes, il est bon d'en baver, de faire la grève, de recevoir des coups des CRS, parce que tu prépares le grand soir. Bon, prêtre ascétique. Bon, le prêtre ascétique l'idéologue, en d'autres termes, est un individu rusé, opiniâtre, il est intelligent, il sait très bien prendre les gens par leur faiblesse pour les aider à porter cette faiblesse en lui donnant un sens. Voilà, tu souffres, tu en baves, tu es exploité, mais cela t'ouvre les voies à tes enfants d'un monde nouveau. Donc, le faible ou l'esclave est aussi, par certains côtés, rusé et intelligent. Et c'est cette ruse et intelligence qu'il va pouvoir utiliser contre le noble. Alors, on pourrait dire que, au fond, le rôle de ce que Nietzsche appelle l'analyse généalogique consiste d'un côté à mettre à jour cette typologie et à tenter de dévoiler la complexité de chaque acte ou de chaque parole avec l'un ou l'autre pôle. On pourrait dire que la grande question nietzschéenne, c'est qu'est-ce qu'on veut dans chaque acte que l'on veut? Quelle est la dose et la qualité de servitude ou de noblesse qu'il y a dans cet acte? Si bien que, pour Nietzsche, dans la critique des morales, le plus important, c'est de faire apparaître leur complexité. Non pas de proposer une morale à lui tout seul, mais de faire pressentir qu'elles importent, qu'elles impliquent une métaphysique et une psychologie. Et à travers, évidemment, cette découverte, c'est ce qui nous achemine vers l'idée de l'éternel retour, de rendre possible et désirable à quelques-uns l'affirmation et la création. De suggérer, et c'est bien qu'il y a là quand même une certaine position morale de Nietzsche, de suggérer qu'il vaut mieux vivre une vie humaine dans la perspective de la noblesse et de la distance que dans la perspective de la servilité. Et si on voulait trouver une morale de Nietzsche, je dirais elle est là, elle est dans le sens de la distance, elle est dans le sens du respect, elle est dans le sens de la noblesse. Son œuvre, au fond, veut susciter le désir de la noblesse. Voilà, donc on pourrait dire qu'à la fois il suppose une certaine complicité psychologique, chacun est plus ou moins complice de la servitude ou de la noblesse, mais la noblesse, elle débouche sur une attitude métaphysique et le dire oui au monde, la bénédiction, le dire oui et le faire oui à ce qui est tel que c'est. Et c'est ce qui nous ouvre précisément à l'éternel retour. Alors, d'un côté, l'esclave condamne le monde, il veut abolir la souffrance, nous avons vu dans le paragraphe 225. De l'autre côté, on acquiesce au monde dans son étrangeté, dans sa profondeur abyssale et dans ce qu'il a de divin, c'est-à-dire de non appropriable par l'homme. Donc c'est les deux thèmes qu'il faut lier, de l'éternel retour et du divin. Voilà, alors, deux remarques encore. Il n'y a pas, contrairement à des interprétations, je crois, erronées, de liberté absolue. Ça, c'est la thèse sartrienne de la liberté comme pour soi, qui s'arrache à son néant, qui néantise à partir de rien. Alors, il suffit de regarder dans notre livre, le paragraphe 231, qui est un texte assez étonnant. Je le lis rapidement, je crois qu'il parle de lui-même. « Apprendre nous transforme. Apprendre agit sur nous à la manière de n'importe quel aliment qui ne se borne pas à, entre guillemets, entretenir la vie comme les physiologistes le savent bien. » Vous vous souvenez que lorsque Nietzsche voulait parler de la tendance foncière de l'esprit, il le comparait à un estomac. Bon, l'estomac digère, il se nourrit de ce qu'il reçoit, mais en même temps, il réduit au même ce qu'il reçoit. Donc, il réduit l'autre au même et il se nourrit de ce qu'il reçoit. On a, me semble-t-il, la même idée. Mais, au fond, tout au fond de nous, il existe quelque chose de rebelle à l'instruction, le granit d'un fatum spirituel d'une réponse prédéterminée à un ensemble de questions prédéterminées. Quand il s'agit de n'importe quel problème cardinal, une voix que rien ne peut changer s'élève en nous pour dire « je suis cela ». Sur l'homme et la femme, par exemple, un penseur ne peut pas changer d'opinion, il peut seulement découvrir jusqu'au bout ce qui est arrêté en lui sur ce point. Nous trouvons de bonne heure certaines solutions à des problèmes et ces solutions nous inspirent une foi globe and solide. Peut-être les nommons-nous dès lors nos convictions. Plus tard, nous ne voyons plus en elles que des étapes de la connaissance de nous-mêmes, des jalons qui mènent au problème que nous sommes, ou plus exactement à la grande sottise que nous sommes, à notre fatum spirituel, à ce qui, tout au fond de nous, résiste à l'instruction. Donc voilà, quand on dit Nietzsche, la transformation de soi, bien sûr, c'est ça, mais jusqu'à un certain point seulement. Parce qu'au fond de nous-mêmes, il y a un socle que nous ne pouvons pas transformer. Alors, c'est ce qu'il appelle parfois le destin. Ce qu'il appelle ici le fatum. Ce que dans notre texte, il appelle notre étoile. Nous devons, dans le très beau texte, l'amitié stellaire, dans le Gai Savoir, nous ne pouvons pas échapper à ce fatum. Ça ne veut pas dire que nous sommes soumis, mais ça veut dire qu'il faut accepter d'être ce que l'on est. Et à partir de là, possibilité de se transformer relativement. Donc ce n'est pas l'idée que, n'est-ce pas, l'être humain serait une espèce de chewing-gum qu'on peut mâcher, transformer, agréer, etc. Non, il y a quelque part, peut-être un héritage grec, je ne sais pas, et on est ce qu'on est, voilà, deviens ce que tu es. Et tu es toi et pas un autre. Il n'y a pas de confusion possible. Bon, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, à propos donc de ces deux attitudes, celle du dire oui et celle du dire non. Nietzsche parle parfois de l'innocence du monde. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, je vais prendre un texte posthume, pour une fois, que vous retrouveriez. On a réédité La volonté de puissance, on y viendra peut-être dans les discussions la prochaine fois. La volonté de puissance est un livre que la sœur Elisabeth a rassemblé, mais ce sont des textes posthumes. Nietzsche avait toujours le projet d'un grand livre décisif qu'il n'a évidemment jamais pu accomplir, mais il a laissé énormément de papiers, de manuscrits, etc. Et sa sœur a produit ce livre qu'elle a appelé La volonté de puissance, qui était un des titres que Nietzsche avait prévu, entre bien d'autres, et elle a pris un des plans innombrables que Nietzsche avait laissé, et elle a publié ses textes. Alors, on a à un certain moment mis de côté ce livre en pensant qu'il était trafiqué par la sœur, et puis maintenant, vous voyez, on vient de le rééditer chez Gallimard, il y a 2 ou 3 ans, on s'aperçoit que ce texte reprend la plupart des textes qu'on connaît par ailleurs. Donc, sauf quelques points, je crois qu'on peut lui faire crédit. Alors voilà ce qu'il écrit au paragraphe. Alors il y a 4 livres, c'est dans le livre 3, tout un passage sur le nihilisme. Je dirai un petit mot dans un instant sur le nihilisme. Voilà le paragraphe 105. Le philosophe nihiliste est persuadé que tout le devenir du monde, est absurde et vain. Or, il ne devrait pas avoir le droit d'être absurde et vain aux yeux du philosophe. Mais d'où vient ce jugement? Il ne devrait pas. Mais où prend-on qu'il doit avoir un sens? Pourquoi le mesurer à cette toise? Le nihiliste croit au fond que la perspective de cet être vide et inutile produit sur le philosophe une impression de mécontentement, de vide, de désespoir. Cette opinion contredit à notre sensibilité philosophique plus raffinée. On aboutit à ce jugement absurde que le caractère de l'existence devrait faire plaisir au philosophe si tant est qu'elle veuille subsister. Or, il est aisé de comprendre que le plaisir et la douleur à l'intérieur du devenir ne peuvent servir que de moyens. Reste à se demander si nous pourrions sans danger discerner le sens, la fin de l'existence, si le problème de l'absurdité de l'existence ou de son contraire n'est pas insoluble pour nous. Alors, je retiens cette idée. Est-ce que le monde est fait pour nous faire plaisir? C'est-à-dire répondre à une finalité qui nous satisfasse? Évidemment que non. Mais alors, faut-il dire que le monde est fait pour nous brimer, pour nous écraser, pour nous enfermer dans le non-sens? Évidemment que non. Le monde est innocent de ces deux attitudes. Il est ce qu'il est. Prétendre qu'il est bon, qu'il est finalisé, ou prétendre l'inverse, qu'il est mauvais et donc il faut le détruire ou l'annihiler, c'est se donner la prétention de juger le monde. Or, nous sommes incapables de juger le monde. Et le monde n'a pas à être jugé. Il est ce qu'il est. Alors, on pourrait dire, à ce point de vue, par-delà bien et mal. Il n'est ni bon ni mauvais. Il n'est ni fait pour nous faire plaisir, comme dit ce texte, ni pour nous déplaire. De ce point de vue-là, il est innocent de tout jugement. Innocent de tout jugement, ça ne veut pas dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Le monde est fait, en effet, aussi d'exploitation, de mort, de souffrance, de chaos, tout ce qu'on voudra, nous le savons assez, mais il est ce qu'il est, point final. Alors, le noble, c'est celui qui est capable de dire oui à ce monde tel qu'il est et de ne pas chercher à se retrouver pour se faire plaisir ou pour se flageller dans ce monde tel qu'il est. D'où l'idée de distance. Voilà, il ne faut pas juger le monde, il faut le dire oui à ce qu'il est. C'est ça la véritable sagesse nietzschéenne. Dire oui à ce qu'il est, à sa profondeur, à son chaos, à sa beauté aussi, et à son éternité. Voilà, c'est ce qui nous conduit, si vous voulez, enfin, à moins que vous ayez des questions sur cette typologie du bien et du mal, ce qui nous conduit à l'idée de l'éternel retour. Alors, l'idée de l'éternel retour du même est évidemment un casse-tête pour tous les lecteurs ou les interprètes de Nietzsche, et je ne prétends pas résoudre ce casse-tête, j'essaie de voir ce que ce thème complexe suggère. Alors, pour ce faire, nous pouvons nous appuyer sur l'aphorisme 56 et évidemment sur d'autres textes d'Ainsi parlait Zarathoustra, parce que c'est tout de même dans Ainsi parlait Zarathoustra que ce thème, cette doctrine, Nietzsche l'appelle eine Lehre, un enseignement, donc non pas un mythe ou eine Lehre, ma doctrine. Bon, c'est dans Ainsi parlait Zarathoustra, je crois, qu'on a les élaborations, si on peut dire, les plus raffinés. Bon, mais nous allons regarder ce paragraphe 56 que je vais lire parce qu'il est assez intéressant à prendre en tant que tel. Celui qui, comme moi, doué de quelque mystérieuse curiosité, s'est longuement appliqué à penser le pessimisme en profondeur et à le délivrer de l'étroitesse et de la simplicité mi-chrétienne, mi-allemande avec lesquelles il s'est manifesté pour la dernière fois en ce siècle, sous l'aspect de la philosophie schopenhauerienne, celui qui a vraiment plongé une fois un regard asiatique et plus qu'asiatique dans les abîmes de la pensée la plus radicalement négatrice, par-delà bien et mal, et non plus comme Bouddha et Schopenhauer dans l'orbite de la morale et de son illusion, bon, deux qui en effet ont jugé le monde comme mauvais et enseigné qu'il fallait s'en retirer, à Bouddha d'une certaine façon, et Schopenhauer s'échappait à l'illusion, celui-là aura peut-être ouvert les yeux, donc entrevu, sans même le vouloir, sur l'idéal, il aura ouvert les yeux sur l'idéal opposé, celui de l'homme le plus généreux, le plus vivant et le plus affirmateur, qui ne se contente pas d'admettre et d'apprendre à supporter la réalité, vous voyez l'esclave qui supporte le chameau, telle qu'elle fut et telle qu'elle est, mais qui veut la revoir, telle qu'elle fut, telle qu'elle est, pour toute l'éternité, qui crie insatiablement da capo, revenons au début, terme musical, en s'adressant non pas à lui, mais à la pièce et au spectacle tout entier, et non seulement à un spectacle, mais au fond, à celui qui a besoin de ce spectacle et le rend nécessaire, parce qu'il ne cesse d'avoir besoin de soi et de se rendre nécessaire. Et quoi, ne serait-ce pas là un circulus viciosus deus, un dieu cercle vicieux. Bon, on va s'en tenir aujourd'hui au cercle vicieux, et puis tout à l'heure on parlera peut-être du deus. Alors, quelques mots de commentaire, si on peut éclairer ce texte. Bon, d'abord, on voit bien qu'il s'agit d'un itinéraire. C'est seulement celui qui, comme moi, Nietzsche, ait fait un certain parcours, traversant les ténèbres et descendant dans les plus profondes souffrances, qui peut comprendre, qui peut ouvrir les yeux, il ne dit pas comprendre, qui peut ouvrir les yeux sur l'idéal opposé à celui de Schopenhauer, de Bouddha, personne à côté du christianisme paulinien. Alors, cette indication, je crois, est tout à fait capitale. Ça veut dire que cette doctrine n'est pas d'abord quelque chose qu'on enseigne. C'est le fruit d'une expérience. Bon, c'est le fruit d'une initiation. Et donc, celui qui n'a pas été initié, que va-t-il comprendre de l'éternel retour? Et il me semble qu'on touche ici une des caractéristiques originales et difficiles de la philosophie nietzschéenne. Par beaucoup de côtés, elle est une philosophie initiatique. Léo Strauss, le philosophe américain, a distingué des textes philosophiques exotériques et ésotériques. Et je crois qu'on peut mettre en effet Nietzsche, comme sans doute Machiavel, dans les philosophies ésotériques. C'est-à-dire qu'il suppose une initiation. Et nous retrouverions là ce que nous avons dit tout à fait au début de ce cours, la façon d'écrire de Nietzsche, en embuscade, en labyrinthique, de manière chaotique, c'est une façon de refuser d'entrer. C'est une façon de mettre des obstacles au lecteur trop curieux. Et il y a de ça chez Nietzsche. Alors, on voit bien les dangers, c'est évidemment d'être compris de travers, d'être caricaturé, etc., et de pas comprendre, en fait, ce qu'il veut dire. Bon, mais ça, je crois que c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas écarter. D'autant moins que, si l'on regarde le Zarathoustra, on s'aperçoit qu'il y a des versions de l'éternel retour. Autrement dit que c'est pas, justement, c'est une doctrine qui elle-même suppose qu'on revienne sur elle, qu'elle ne soit jamais fixée et qu'on passe par des étapes initiatiques pour la découvrir. C'est pourquoi, alors ça, première remarque donc, je dirais côté initiatique, côté ésotérique, côté secret, côté qui suppose une expérience, une initiation, pour accéder à cette doctrine. Donc, c'est pas un texte, pourrait-on dire, intellectualiste qu'on peut comprendre simplement si l'on n'a pas vécu une expérience analogue à celle de Nietzsche. Ce qui veut dire que, bon, c'est très difficile à comprendre. Alors, la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que, au premier abord, cette idée de l'éternel retour, tout va revenir au même, à quelque chose d'écrasant. Et là, nous pourrions regarder un des premiers textes où cette idée de l'éternel retour apparaît, c'est dans le Gai Savoir, le paragraphe 341, qui est d'ailleurs dans lequel on rentre, là à nouveau, initiatique, sans même se rendre compte qu'il s'agit d'un rêve, et même qu'il s'agit d'un cauchemar. Alors, le cauchemar, c'est précisément la même araignée reviendra éternellement, qui est en train de courir sur la table. Le même cours reviendra éternellement de la même façon, avec les mêmes mots et la même chaleur, etc. Tout revient au même, il y a quelque chose d'affolant et d'écrasant. Et en effet, à première vue, quand on entend cette doctrine de l'éternel retour, on dit « Ah donc, vous voulez dire que ça va recommencer toujours de la même façon. Tout revient indéfiniment au même. » On pourrait dire que dans cette perspective, l'éternel est compris comme une répétition indéfinie du même. Répétition indéfinie du même. Cette expérience, elle est à faire, puisqu'elle fait partie de l'initiation. Mais, troisième remarque, si l'on accepte ce poids, si l'on accepte de dire, ben oui, après tout, l'éternité, c'est peut-être ce recommencement écrasant des mêmes choses, gluantes, impossibles à supporter, alors ce poids, s'il est accepté, est capable de transformer. De transformer l'individu, de le broyer précisément en s'apercevant que les jugements qu'il porte sur le monde sont des jugements superficiels, qui ne vont pas au fond des choses. Il s'agit d'une acceptation difficile et certainement impossible à l'esclave, puisque l'esclave ne peut se comprendre lui-même et se vivre comme écrasé. Donc il veut un monde d'écrasement. Et peut-être même l'esclave ne s'en sortira jamais. Mais l'acceptation du monde tel qu'il est justement dans ce qu'il a d'écrasant, est tout de même une possibilité pour celui qui a quelque noblesse d'accepter cette réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire de ne pas vouloir juger le monde, par conséquent se mettre en surplomb, à distance, et comme il est dit dans le Gai Savoir, de mettre le monde dans sa petite balance et de juger qu'il ne fait pas le poids. C'est pas une critique des formules grecques, l'homme est le monde. On dit ce monde, affreux, si j'avais été le bon Dieu, je n'aurais pas fait ça. Ah oui, donc vous mettez le monde dans une petite balance et vous trouvez que ça va pas. Vous pouvez juger le monde. Mais non, il faut l'accepter, l'innocence du monde. Parce que le monde n'est pas fait ni pour nous faire plaisir, ni pour nous déplaire. Alors, quatrième remarque, je crois qu'on peut ici tâcher de situer ce que Nietzsche appelle le nihilisme. Alors là aussi, c'est une notion extrêmement embrouillée, parce que, me semble-t-il, les textes sont souvent contradictoires. Nietzsche ne suggère pas la même chose sous le même mot. Bon, il décrit le nihilisme comme finalement un état de choses historiques, c'est-à-dire que nous sommes sortis ou nous sortons du monde idéalisé. Les valeurs les plus hautes sont dévalorisées. Ça, c'est une des quasi-définitions du nihilisme. Les valeurs les plus hautes sont dévalorisées. Entwerfen, die oberste Werte sind entwertet, sont dévalorisées. C'est-à-dire que quand on nous dit on va créer un monde de justice, on va créer un monde de paix, qui ne sera que le règne de la paix, que le règne de la justice, évidemment, on n'y croit plus. Et quand on nous dit le monde est fait pour déboucher sur un avenir merveilleux, sur un royaume où les faibles seront récompensés, les autres punis, on rigole. Il y a, comme dit Nietzsche, la masse a besoin de ça, mais les esprits éclairés n'y croient plus. Donc le nihilisme, c'est une sorte d'après l'idéalisme métaphysique ou religieux. Mais le nihilisme désigne aussi des attitudes de l'individu. Et donc Nietzsche va parler d'un nihilisme actif ou d'un nihilisme négatif ou passif. Si on regarde de près les textes, on s'aperçoit que c'est très embrouillé. Mais disons en gros, je crois qu'il y a quand même une distinction qu'on peut retenir entre un nihilisme actif et un nihilisme pessimisme. Les deux nihilismes sont sur le fond de tableau de ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur l'idée que les valeurs les plus hautes sont dévalorisées. Mais le nihilisme réactif, c'est le nihilisme du « à quoi bon ?». Voilà aussi une autre définition du nihilisme. C'est la défaillance de la volonté, dit Wille Felt, parce qu'elle n'a plus de but. Elle ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, la volonté, c'est l'esclave, ne peut plus synthétiser, dominer, domestiquer ses pulsions, parce qu'il n'a plus de but à quoi les ordonner. Pas la chance des conceptions du monde, nous dirions dans notre langage à nous, des idéologies, c'est qu'elles donnaient une finalité à la vie humaine. On combat pour une société sans classe, on lutte pour l'avènement de la justice et de la paix. Mais à partir du moment où on dit tout ça, c'est de la bouillie, ben la volonté, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se défait. Donc c'est le nihilisme, pourrait-on dire, négatif ou passif. Tout est vain. Rien ne vaut, tout est vain. Donc, le règne du n'importe quoi. Et par parenthèse, comme vous le savez, Nietzsche n'est pas très positif, n'est pas très optimiste sur l'avenir du monde moderne. Il pense qu'après la mort de Dieu, c'est la mort des grandes références idéologiques, eh bien c'est ce nihilisme-là qui va régner. C'est-à-dire que la dépression, le suicide, la drogue, le n'importe quoi, ou la violence, risquent de l'emporter sur le reste. Mais il y a un nihilisme actif. C'est celui qui est justement capable de dire oui. De dire oui à ce qui est tel que c'est. Alors, il faut bien faire attention, c'est un dire oui. C'est pas une adhésion irrationnelle et aveugle au monde, c'est une acceptation raisonnée, gai savoir. C'est une Wissenschaft. Le dire oui est une affirmation raisonnée. On comprend qu'il est plus sensé de dire oui au monde tel qu'il est que de se battre contre des fantômes, de rêver d'un avènement de la paix et de la justice qui n'arrive jamais. Donc ce nihilisme actif, il est un dire oui. Et donc il faut vouloir dire oui. Et on peut ne pas vouloir dire oui. Donc il faut vouloir l'éternel retour des choses. Ça, c'est un point, je crois, capital. Dans le Zarathoustra, dans la troisième partie, un texte fort beau qui s'appelle « Le convalescent », nous trouvons cette formule « Moi-même, je fais partie des causes de l'éternel retour ». Moi-même, je fais partie des causes de l'éternel retour. C'est-à-dire que l'éternel retour n'est pas une grande horloge qui tourne, et tout revient au même, une grande mécanique, un cosmos, et le retour éternel peut-être de certains Grecs, ça revient au même, après le jour de l'an, il y a le février, puis après février, il y a l'été, puis après l'été, l'automne, puis ça recommence. On n'est pas devant un automatisme, encore faut-il qu'on soit capable de dire oui, et c'est ce dire oui qui est transformateur. On peut dire non, nihilisme négatif, on peut dire oui, et à ce moment-là, le monde change de figure. Au lieu d'être accablant, on découvre qu'il est ce qu'il est, dans sa profondeur, dans sa beauté, dans son côté abyssal. Donc, en gros, deux types de nihilisme. Ce nihilisme, de fond, ce qu'il appelle quelquefois le nihilisme comme un état normal. Un état normal, c'est-à-dire les valeurs les plus hautes, die obersten Werte, sich entwerten, les valeurs les plus hautes, se dévalorisent. Elles sont toujours là, mais on n'y croit plus. Elles sont peu investies de caractère positif. Et puis les deux autres branches, si je puis dire, le nihilisme passif, négatif, que l'accablement, le monde comme accablement, comme vanité, et le monde actif du dire oui. Alors, ceci posé, encore une autre remarque, le dire oui ne peut jamais être définitif. Il faut qu'il revienne. C'est l'idée du cercle, mais l'idée du cercle vicieux. Le cercle vicieux, enfin je l'imagine ainsi, c'est un cercle qui ne revient pas au même, qui ne boucle pas sur lui-même. C'est un cercle qui a un jeu, n'est-ce pas ? Il ne boucle pas. Donc c'est pas tout va recommencer au même, après l'hiver, le printemps, après le printemps, l'été, après l'été, l'automne, après le midi, le soir. C'est un cercle qui ne revient pas au même. C'est un cercle vicieux parce que précisément, on ne revient jamais au même oui. On pourrait dire encore, le dire oui au monde ne peut jamais être un dire oui achevé. Et il faut, instant après instant, dire à nouveau oui au monde. Et le nouveau oui ne sera jamais le oui antérieur. Il n'y a pas de répétition du même. Il n'y a pas de répétition du même. Par-delà bien et mal, le texte se termine, vous l'avez peut-être vu, par un grand poème, extrêmement difficile à comprendre, et je dois avouer que je ne le comprends pas bien, mais qui s'appelle « Du haut des monts ». C'est un très beau texte enchanteur, où Nietzsche cherche des amis qu'il prétend ne pas avoir trouvés. Bon, et il a ce beau texte qui nous conduira à l'idée de l'éternel retour, presque à la fin, au midi de la vie, seconde jeunesse, au jardin d'été, bonheur impatient, aux aguets, à l'écoute, j'attends mes amis, nuit et jour à l'affût, mes nouveaux amis, venez, il est temps. Ce chant sais-tu, le doux cri du désir expira sur mes lèvres, un enchanteur parut, l'ami de l'heure juste, l'ami de l'heure midi, non, ne demandez pas son nom, César, c'est Dionysos, il était midi et il n'y eut plus un, mais deux. Bon, alors, on a des textes très abondants de commentateurs sur ce un, mais deux. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais ça veut dire justement que le un n'est jamais un. C'est jamais le un qui se répète. Si vous répétez, c'est déjà le deux. Donc, le dire oui à la beauté du monde une fois appelle un dire oui une autre fois. Et ceci de manière qui ne cesse pas. Donc, il ne s'agit pas d'un dire oui béat, oh, comme le monde est beau, et une fois que ça est fait, c'est fait. Il faut dire oui à chaque instant. Alors, je vais revenir sur cette idée de l'instant, mais peut-être pourrait-on lire ici un petit texte assez intéressant de Milan Kundera. Milan Kundera est un romancier connu, c'est un Tchèque, je crois, mais qui vit en France depuis longtemps. Et dans un de ses romans, qui s'appelle « L'insoutenable légèreté de l'être », il a un petit passage sur l'éternel retour de Nietzsche que je vous lis. « L'éternel retour est une idée mystérieuse. Et Nietzsche, avec cette idée, a mis bien des philosophes dans l'embarras. Penser qu'un jour tout va se répéter comme on l'a déjà vécu, et que cette répétition va encore indéfiniment se répéter, que veut dire ce mythe insensé ? » Ça, c'est le paragraphe 351 du Gesauer. L'araignée, la chaleur, le froid, venez le jour. Le mythe de l'éternel retour. Alors, il parle de mythe, vous voyez déjà. Or, Nietzsche parle d'un lehre. Déjà, l'inflexion. Pas un mythe. Lehre. Enfin, Kundera parle de mythe. On voit déjà le... Le mythe de l'éternel retour nous dit par la négation que la vie qui va disparaître une fois pour toutes et ne reviendra pas est semblable à une ombre, qu'elle est sans poids, qu'elle est morte dès aujourd'hui, et qu'aussi atroce, aussi belle, aussi splendide fût-elle, cette beauté, cette horreur, cette splendeur n'ont aucun sens. Il ne faut pas en tenir compte. Pas plus que d'une guerre entre deux royaumes africains du XIVe siècle qui n'a rien changé à la face du monde, bien que 300 000 Noirs y aient trouvé la mort dans d'indescriptibles supplices. Mais est-ce que ça va changer quelque chose à cette guerre ? Oui, certainement. Cette guerre va devenir un bloc qui se dresse et perdure, et sa sottise sera sans rémission. Si la Révolution française devait éternellement se répéter, l'historiographie française serait moins fière de Robespierre. Mais comme elle parle d'une chose qui ne reviendra pas, les années sanglantes ne sont plus que des mots, des théories, des discussions, elles sont plus légères qu'un duvet, elles ne font pas peur. Il y a une énorme différence entre un Robespierre qui n'est apparu qu'une seule fois dans l'histoire et un Robespierre qui reviendrait éternellement couper la tête aux Français. Voilà, et bien alors après, il parle d'Hitler, c'est un peu plus discutable. Parce que ça veut dire que, je lis quand même ceci, « Disons donc que l'idée de l'éternel retour désigne une perspective où les choses ne nous semblent pas telles que nous les connaissons, elles nous apparaissent sans la circonstance atténuante de leur fugacité. Cette circonstance atténuante nous empêche en effet de prononcer un verdict quelconque. Peut-on condamner ce qui est éphémère ? Les nuages orangés du couchant éclairent toute chose du charme de la nostalgie, même la guillotine. Alors, c'est, voilà une interprétation, je crois, très intéressante, mais je crois qu'il reste prisonnière du nihilisme négatif. C'est-à-dire que, oui, Robespierre, on relève de l'imaginaire. Et effectivement, si Robespierre ou Mao devaient revenir une infinité de fois, ben on n'en veut pas. Ça veut dire que la vie est une plume, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance. Et je ne crois pas que ce soit ce que Nietzsche veut dire. D'ailleurs, ce n'est pas un jugement sur l'histoire. Mais je trouve cette interprétation stimulante parce qu'elle peut donner à penser. Je voudrais, puisque je suis dans les interprétations, citer aussi celle de... Oui, il ajoute une autre chose que je vais quand même lire aussi parce que ça nous conduit un petit peu à Dionysos. Il dit un peu plus loin, si chaque seconde, c'est toujours Kundera, hein, si chaque seconde de notre vie doit se répéter un nombre infini de fois, nous sommes cloués à l'éternité comme Jésus-Christ à la croix. Je lirai la prochaine fois ou tout à l'heure un texte sur Dionysos et le crucifié. Nous sommes cloués à l'éternité comme Jésus-Christ à la croix. Quelle atroce idée! Dans le monde de l'éternel retour, chaque geste porte le poids d'une insoutenable responsabilité. C'est ce qui faisait dire à Nietzsche que l'idée de l'éternel retour est le plus lourd fardeau. Si l'éternel retour est le plus lourd fardeau, nos vies, sur cette toile de fond, peuvent apparaître dans toute leur splendide légèreté. Donc, vous voyez, je crois que c'est quand même une version un peu nihiliste, c'est-à-dire que ça n'a pas d'importance, puisque tout va passer, s'engloutir, au fond... Ça n'a pas tellement d'importance. Alors, je voudrais citer simplement une autre interprétation, je dirais presque inverse. C'est celle de Gilles Deleuze, que peut-être vous avez lu des textes de Deleuze. Alors, l'idée de Deleuze, c'est que l'éternel retour est une sélection. Là, c'est presque l'inverse de la position de Kundera. Kundera ne prétend pas faire une philosophie de l'éternel retour. C'est un romancier qui reprend à son compte, mais c'est intéressant. Deleuze fait tout un discours philosophique là-dessus. C'est une sélection. Je lis un petit passage d'un texte peu connu de lui. Le malentendu sur l'éternel retour n'est pas moins grand que celui qui pèse sur la volonté de puissance. Chaque fois que l'on comprend l'éternel retour comme le retour d'une combinaison, chaque fois que l'on interprète l'éternel retour comme le retour de l'identique ou du même, on substitue des hypothèses puériles à la pensée de Nietzsche. L'éternel retour est inséparable d'une sélection, d'une double sélection. D'une part, sélection de vouloir ou de penser, qui constitue l'éthique de Nietzsche. Donc, il lie l'éternel retour à une proposition de nature morale, qui serait la suivante, ne vouloir que ce dont on veut en même temps l'éternel retour. Éliminer tous les demi-vouloirs, tout ce qu'on ne peut vouloir qu'en se disant une fois, rien qu'une fois. D'autre part, sélection de l'être. Ça veut dire au fond qu'il en fait un principe de jugement moral, un peu à la façon de Kant, de l'impératif catégorique. Est-ce que je pourrais une infinité de fois vouloir mentir ou trahir ma parole ? Eh bien, je ne peux pas vouloir qu'une éternité de fois, le même mensonge se reproduise. Donc, pensée morale. Alors, je crois que c'est plus qu'ancien que véritablement Nietzsche, mais oui, on peut faire dire un peu ce qu'on veut. C'est très beau, la sélection. Mais il n'y a rien de sélectif, me semble-t-il, chez Nietzsche. Enfin, c'est une façon de concevoir les choses, et qui n'est pas sans intérêt non plus. Alors, je voudrais ajouter que, donc, cercle vicieux, mais je crois cercle vicieux libérateur, et en ce sens, l'interprétation de Kundera n'est pas sans intérêt. C'est-à-dire qu'en effet, ça nous libère de l'existence comme un poids accablant. Après tout, les choses passent et reviennent. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais en même temps, c'est un dire oui à l'éternité. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dire oui à l'éternité. Alors, je crois d'abord que c'est un dire oui à l'instant, porteur d'éternité. Très difficile à comprendre, mais il faudrait nous arrêter sur Zarathoustra. Je vous avais suggéré de lire ces textes dans la troisième partie du Zarathoustra, le chant qui s'appelle « De la vision et de l'énigme ». Bon, on a l'idée d'un... C'est encore une version, disons, faible, incomplète de l'éternel retour. On a une sorte de poteau indicateur et de chaque côté un chemin qui va se poursuivre indéfiniment. C'est une version encore réactive et négative de l'éternel retour. Mais ce qu'on va comprendre, c'est que l'éternel retour doit être affirmé ici et maintenant, dans l'instant présent. Et précisément, cet instant ne revient jamais au même. L'instant nous fuit comme le chemin. Mais, et voilà tout le mystère, si je puis dire, c'est une affirmation d'un instant de l'éternité. Alors, dans notre texte, c'est le cercle vicieux qui est lui-même, d'une certaine façon, éternel. Mais si l'on regarde le Zarathoustra, c'est l'éternité qui est affirmée. Alors, vous connaissez ce très beau chant, Das Trinkende Lied, qu'on peut traduire le chant de l'ivresse ou le chant de minuit. C'est le fameux chant « Car je t'aime, ô éternité ». Les sept sceaux. S-C-E-A-U-X. Alors, c'est ça, les sept sceaux. J'en lis simplement deux ou trois versages, puis on s'arrêtera là. Voilà, donc c'est un très long texte et qui s'appelle le chant, les sept sceaux, ou le chant du oui et de l'amen, le chant de la bénédiction. Alors il y a, je ne vais pas les lire tous, vous les avez lus, mais il y a sept, c'est un chiffre sacré, il y a sept strophes. Je lis la première. Si je suis devin, Wahrsagen, plein de cet esprit divinatoire qui chemine entre deux mers sur un col élevé, qui, lourd nuage, chemine entre l'avenir et le passé, hostile à tous les bas-fonds étouffants et à tout ce qui est fatigué et ne peut ni vivre ni mourir, c'est l'esclave, prêt à l'éclair dans son sein obscur et au rayon de lumière sauveur, gros éclairs qui disent oui, lancent leur oui dans un rire, prêt à des éclairs prophétiques, mais bienheureux celui qui est ainsi fécondé. Et en vérité, il lui faut rester longtemps accroché, toujours le temps, la durée, comme un lourd orage à la montagne, celui qui allumera un jour la lumière de l'avenir. Oh, comment ne convoiterais-je pas l'éternité et le suprême anneau nuptial, l'anneau du retour ? Jamais encore je n'ai trouvé la femme dont je voudrais des enfants, si ce n'est cette femme que j'aime, car je t'aime, ô éternité, car je t'aime, ô éternité. Et le texte est scandé par cette ritournelle, ce refrain qui revient à chaque fois. Jamais encore, oh comment ne convoiterais-je pas l'éternité et le suprême anneau nuptial, l'anneau du retour. Jamais encore je n'ai trouvé la femme dont je voudrais des enfants, si je n'ai cette femme que j'aime, car je t'aime en éternité, car je t'aime en éternité. Bon, je ferai un petit commentaire tout à l'heure, je fais une petite pause. D'Ainsi par les Zarathoustra, la troisième partie, le dernier chant de la troisième partie, magnifique chant, qui est précédé de ce fameux texte, « Le monde est profond, et plus profond que ne pensait le jour », etc., etc. Bon, on prend une petite pause pour faire un commentaire rapide de tout ça.